Ce matin, on va méditer la parole, bien sûr, et on va s'arrêter sur un sujet, Dieu m'a mis cela à cœur, d'aborder cela ce matin avec vous. Sûrement que votre pasteur l'a déjà abordé, vous l'avez déjà considéré, mais on est tout au long de la vie et de nos jours, je dirais, confronté à cette question sur la volonté de Dieu. À moins que ça ne vous effleure pas l'esprit et que vous allez comme ça. Non, quelque part, chaque jour dans nos prières, c'est là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Parce qu'on a des responsabilités, souvent des décisions à prendre. On sent qu'il y a des choses où on ne va pas pouvoir les laisser comme ça, il va falloir faire quelque chose. Et dans le fond, on en revient toujours à penser, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux ? Non ? Parce que nous avons compris que notre Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous, on veut certaines choses, vous avez remarqué, hein, et parfois on a du mal à en démordre. On pense jusqu'à ce qu'on se casse le nez et qu'on prenne une grande claque qui nous donne de comprendre que, ah, ben non, c'était pas ça. Et c'est souvent dans ce genre de circonstances qu'on apprend après à dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Qu'est-ce que tu veux pour nous, si c'est pour la famille ? C'est souvent tout un parcours, et on se pose souvent beaucoup de questions concernant la volonté de Dieu. Alors j'avais pensé, pour introduire ce temps de méditation, quelques versets dans le psaume 40. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi cela. Ces versets, ces quelques versets, donc psaume 40, le verset 7, à partir du verset 7, on va lire. Un psaume prophétique et qui nous relate l'échange dans le ciel de gloire et qui s'accomplira pleinement en la personne de Jésus-Christ. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Le psalmiste inspiré exprime cela et je veux croire qu'il avait ces choses dans son cœur, sa pensée. Mais nous le savons, ça a une portée bien plus grande concernant la venue du Messie, la venue du Sauveur. Et Dieu n'a pas voulu simplement se satisfaire des sacrifices, entre autres, qu'il avait pourtant ordonnés, qui étaient un chemin, une direction donnée pour que les hommes puissent s'approcher de lui. Mais il a voulu autre chose et plus grand encore, et c'est la personne même de Jésus-Christ qui est venu donner sa vie pour payer le prix pour nous tous. Mais il dit ceci au verset 9, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. » Est-ce que vous avez ce même cri de joie dans le cœur ? Ou alors il y a des fois, « Seigneur, ça m'ennuie sérieusement ce que tu me demandes. » Non ? Jamais chez vous ? Tout va bien ? Oh, super ! La volonté de Dieu, mais en quoi consiste-t-elle ? Faut-il s'en préoccuper ? Ça, c'est selon le stade auquel on en est. Hein. Et surtout la question, mais comment la connaître ? Comment savoir ? Comment l'accomplir ? Comment rentrer dans ce que Dieu a pour nous ? Tellement souvent, nous pensons que les choses sont établies d'avance, de manière définitive. Oui, Dieu a énoncé sa volonté et il a préparé pour nous plein de bonnes choses. Mais Dieu n'est pas celui qui s'impose à nous, il attend que nous, nous fassions un choix. Celui de lui dire oui pour marcher avec lui dans la foi, dans le salut qu'il a pour nous. Mais même s'il a préparé beaucoup de choses, ça se fera toujours avec nous. Et on va voir ensemble que Dieu exprime sa volonté, mais qu'il attend aussi que nous exprimions la nôtre. Je ne pourrais pas ce matin aborder toutes les questions, mais on va voir au travers de quelques versets de la parole que la volonté de Dieu a besoin de celle des hommes, de l'homme ou de la femme que nous sommes, pour eh bien, s'accomplir. On va voir cette notion de choix, de liberté ou d'esclavage. Il arrivait, c'est l'Ancien Testament qui nous parle de cela, il arrivait parfois, c'est des notions que nous ne connaissons pas ou plus, ou quoique l'actualité nous fait voir parfois certaines horreurs, que l'esclavage n'est pas fini, malheureusement. Mais autrefois, c'est quelque chose qui se pratiquait, et il y avait dans les maisons des esclaves qui étaient au service eh bien, de maîtres. Et il arrivait parfois que l'esclave eh bien, exprimait cette volonté, ce refus d'être remis en liberté. À la fois, il pouvait, dans certaines circonstances, aspirer à la liberté, mais d'autres fois, il préférait rester dans la maison. Vous retrouverez dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, ces paroles. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ce texte peut nous laisser le choix entre deux approches. On pourrait dire que l'un exprime le fait que le croyant, le chrétien, est esclave volontaire du Seigneur, par amour pour lui. Et Paul le dit souvent, et nous avons fait aussi ce choix de marcher avec Christ. Nous sommes à son service, non pas dans la notion d'esclave avili et diminué, mais au contraire, dans la notion d'être à son service, dans la liberté et la joie. Mais c'est un choix de notre part. L'autre notion, elle pourrait prendre cet aspect, c'est que, nous le savons, le pécheur ou les pécheurs que nous sommes, parfois, nous refusons de quitter l'esclavage du péché. Parce que nous aimons certaines choses parfois du péché. On peut voir la chose de diverses manières, vous comprenez. La volonté de Dieu, nous le savons, est de sauver les hommes du péché, de les libérer de l'esclavage, pour reprendre cette notion, l'esclavage du péché, de l'esclavage du monde, de l'esclavage de l'ennemi de nos âmes, du diable. Et souvent, l'homme peut ne pas vouloir, pour diverses raisons, l'amour du péché, je le citais il y a quelques instants, parce que parfois, eh bien, vous le savez, il y a certaines conditions de vie qui font qu'on a fini d'espérer. On pense que de toute façon, c'est comme ça, que ce sera toujours comme ça, et qu'on ne pourra pas échapper eh bien, ce qui nous domine nous retient captifs. Parfois, on arrive même à s'organiser autour de notre condition, autour de notre esclavage, autour de notre péché, et on a fini par s'y accoutumer, et puis on le laisse dominer complètement notre vie. Et envisager la liberté, ça remet trop de choses en question, trop de choses en cause, et trop souvent, on préfère rester comme l'esclave qui parfois subissait les coups de fouet, la maltraitance de son maître, mais devenir libre, c'était être exposé. Être exposé à toutes sortes de dangers, de ne plus avoir de protection, de ne plus avoir de lieu pour dormir ou comme cela. Et on préférait parfois rester dans l'esclavage plutôt que de se retrouver libre et n'avoir plus aucune garantie en quoi que ce soit. Et ça, ça se retrouve dans bien des domaines de la vie. On est ennuyé par certains sujets, certains problèmes, mais on préfère rester dans notre condition plutôt que d'affronter quelques dangers et d'éprouver la liberté. Non, parfois, on reste dans notre condition. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est de nous rendre libres, de nous libérer, de nous faire rentrer dans son salut. Je voudrais donner les grandes lignes de ce que Dieu veut. Et je rappellerai quelques versets. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit-il Paul à Timothée. Pierre dira que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la volonté de Dieu, son désir de nous voir sauvés, libérés. Dieu veut, je continue, la sanctification, par exemple. Que dira Paul aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. Donc déjà, ça nous donne quelques indications quant à certains aspects de notre vie où on peut déjà percevoir ce que Dieu veut. C'est notre sanctification, c'est notre mise à part. Je n'ai pas parlé de vous cloîtrer, hein, mais de dire certaines choses, il vaut mieux que je les abandonne. Parce qu'elles vont finir par me dominer. Certaines choses, me tiennent captif. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut que les hommes vivent selon ses principes. Je n'ai pas le temps ce matin d'entrer dans tous les détails de ce que Dieu veut pour chacun. C'est impossible. Mais pour le salut, pour la sanctification que je viens de souligner, les voies de Dieu sont les mêmes pour tous. Mais après, certes, les voies de Dieu, en rapport de chacun d'entre nous, varient dans l'appel et ce qu'il a pour nous. Mais considérons que ce que Dieu veut pour les hommes sont de bonnes choses qui contribuent à notre salut, à notre bonheur, même si parfois sur cette terre, c'est difficile de le comprendre, de le saisir. Mais Dieu veut que les hommes se soucient de connaître sa volonté. Vous connaissez ce passage de Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Je reprends ce texte dans une autre traduction qui peut peut-être nous aider à mieux comprendre. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Vous voyez, notre traduction développe. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans notre quotidien. Dans Matthieu 6, verset 9, « Priez donc ainsi, dira Jésus, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu donc pour Dieu et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est le principe même que Jésus a enseigné. Alors si j'ai parlé rapidement de la volonté de Dieu, je voudrais m'arrêter sur le rôle aussi de notre volonté. Ah, c'est plus délicat, là. Hein. Je commencerai par le fait que Dieu ne donnera pas toujours ce que les hommes veulent. Dieu ne donnera pas ce que les hommes aussi ne veulent pas. Jésus, vous retrouverez ça dans Matthieu, chapitre 23. Un jour, Jésus est là et il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Ben oui, Dieu fait avec. Parfois, nous ne voulons pas. Et Dieu fait avec. Oh, lui, il n'est pas à court de solutions. Il n'est pas à court de... Mais quelle tristesse dans son cœur. Et Jésus, de faire ce constat un jour, pour cette ville qui n'a pas voulu accueillir la tendresse, l'amour de Dieu, y être consolée et secourue. Dans Matthieu 17 encore, Jésus, verset 12, dit « Je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Et il dit de même « Le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Oui, Dieu est souvent confronté à la volonté des hommes. Oh, il la connaît. C'est un refus. Et qui d'entre nous n'a pas résisté à Dieu ? Et n'a pas exprimé cette volonté de ne pas vouloir des choses de Dieu. Dieu a été bon et patient, et il a fini par nous amener à capituler, n'est-ce pas ? Heureusement. Mais combien de fois, pourtant encore, de résistance ? Jésus donnera un jour cette parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, verset 14. Ses concitoyens le haïssaient, ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et il donnait la préfiguration de sa personne et de son règne. Et c'est ce qui s'est passé, on ne voudra pas de Jésus. Et encore aujourd'hui, nous ne voulons pas de Dieu dans notre monde. Et Dieu respecte le choix des hommes. Et Dieu respecte le choix des hommes. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fait avec. Même si, souvent, il indique ce que devrait être leur choix. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu lui indique, et souvent l'homme fait le contraire. Il est certain que la volonté ne suffit pas. L'apôtre Paul fera ce constat au-dedans de lui, mettant en évidence sa nature d'homme pécheur. Dans Romains chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. » C'est souvent cette chose-là au-dedans de nos cœurs. Nous avons la volonté de certaines choses et quand on y est devant, on se retrouve comme incapable. Nous manifestons une certaine volonté, mais elle a aussi ses limites à cause de notre condition, de notre nature de pécheur. Cependant, la volonté a pourtant son rôle à jouer. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens 8, verset 12, « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » Une autre traduction dit, « Si l'on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Combien de fois nous avons la volonté, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas la force, on n'a pas les capacités. Pourtant, la volonté, elle est là. Et la bonne volonté Elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir et de ce qu'elle a. Et nous faisons face à ces choses-là dans notre propre cœur, souvent. Nous avons la volonté, mais... La volonté, au-dedans de nous, peut se rapporter au fait de désirer quelque chose ardemment. Si la volonté, parfois, est insuffisante pour procurer, pour produire les résultats attendus, même si elle est limitée, pourtant, cette volonté est importante. Elle est réelle dans notre cœur. Et c'est souvent l'expression d'un désir profond au-dedans de nous. Et c'est pourquoi Dieu sollicite notre volonté. Dieu le fait pour révéler ce qui, au fond de nos cœurs, sommeille parfois. Je relevais cet exemple de Salomon. Dans 1 Roi 3:5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ah, vous aimeriez que chaque nuit, Dieu vienne comme cela, parler à votre cœur. « Demande ce que tu veux que je te donne. » Hein? Et Salomon, avec beaucoup de sagesse, dira « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande Salomon plut au Seigneur. » Oui, Dieu vient et il vient vous consulter de diverses manières. Prenez-y garde. Bien sûr, si c'est simplement dans votre cœur pour répondre avec avidité, pour tout, il n'est pas sûr que Dieu réponde à toutes vos demandes. Mais si dans votre cœur il y a cette sagesse de dire « Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre, c'est pour mieux te servir », ça va être agréable à Dieu. Ça a été le cri du cœur de David. Dans le psaume 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » David a eu cette expression-là. Dieu fait ainsi aussi parce qu'il veut respecter chacun d'entre nous et nous respecter dans notre libre arbitre, comme l'on appelle. Jésus dira dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 23, j'ai pris ce passage, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il fait appel à notre volonté. Il ne nous impose pas, il ne vient pas nous écraser, nous faire pression, il nous laisse libres. Il veut que joue en nous ce désir-là. Ça implique, ça engage, mais il fait appel à notre volonté. Il peut arriver que notre volonté fasse des choix contraires. Jésus citait et mettez en exemple Jean le Baptiste, l'exemple de Jean le Baptiste, et il dira, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais il dira par la suite, en ce qui le concernait, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour dire que Dieu nous laisse libres, exprimer notre volonté, comme lui exprime librement la sienne. Le Seigneur a été suivi par des hommes qui ont fait le choix parfois volontaire, sans contrainte. Et il veut cela, le Seigneur. Il ne veut pas des hommes ou des femmes qui le suivent parce que, eh bien, il faut le faire. Non, il veut que ce soit un choix volontaire. Et on retrouve ce principe dans toute l'Écriture, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il aime cette expression. Paul qui s'adressait à Philémon, il y avait eu une petite difficulté, mais alors qu'il aurait pu être en position et en droit d'exiger de lui certaines choses, toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. L'apôtre Paul, à l'égard de Philémon, a eu la délicatesse de dire, eh bien voilà, je pourrais exiger de toi, je pourrais m'imposer à toi, mais je te demande, afin que ta volonté s'exprime. Dieu fait toujours ainsi pour nous permettre d'exprimer nos choix, pour laisser notre volonté s'exprimer, mais surtout pour laisser notre foi s'exprimer. On retrouve cet exemple dans Matthieu 8. Il nous est dit qu'il y avait un lépreux qui s'était approché, qui va se prosterner devant Jésus et qui va avoir ces paroles, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié. Comme si Jésus ne savait pas quel était son état. Comme si Jésus ne savait pas quelle était sa condition. Il connaissait tout cela, mais cet homme a manifesté sa volonté, sa foi, et il s'en est remis à la volonté de Dieu. Et Jésus dira, « Bien, je le veux, sois pur. » Dans Matthieu 20, verset 32, Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils répondirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Dieu attend souvent de nous que l'on exprime notre besoin. Il le connaît, il le sait, mais il veut que notre cœur exprime de manière volontaire, de manière délibérée, exprime la demande et par cela même la foi. Et Dieu prend plaisir à agir et à révéler cela. Nous sommes dans, chacun d'entre nous, dans ce qu'on appelle une vie par la foi et une vie avec des démarches dites intentionnelles. Ce n'est pas les circonstances. Ce ne sont pas la pression ou les indications de quelqu'un, même si les paroles sont encourageantes, mais c'est notre cœur qui choisit, qui exprime sa volonté et sa foi à l'égard de Dieu. Et votre vie doit toujours être animée au quotidien de cette démarche intentionnelle. Sinon, eh bien, on en finit par, et ça doit toujours nous animer, « Oh, ben, je ne le sens pas. Oh, ben, je n'ai pas envie. » Ce sera le reflet de l'état de notre cœur, tout simplement. Mais à partir de ce principe, eh ben, il y a plein de choses qu'on va ne pas faire, il y a plein de choses et on va diminuer, reculer même. Mais tous les jours, ça doit être, « Seigneur, je veux faire ta volonté et je veux manifester la mienne. » Et Dieu agit toujours sur la base de ces éléments-là. Toujours. Dieu aime laisser s'exprimer nos réactions. Ce paralytique, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, ce paralytique duquel il va s'approcher, il lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Ça peut sembler étonnant, cette parole, mais on revient toujours à cette notion de l'esclave, qui dit, « Soit je reste dans mon esclavage, soit j'en sors. » Et Jésus dit à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Parce que le Seigneur attend de nous une réaction. Il veut laisser les initiatives aussi s'exprimer. Il donnera cette image, « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, etc. L'initiative. Dieu nous laisse cette liberté-là. Et combien de fois, et je pourrais parler de David, qui a eu à cœur de bâtir une maison à l'Éternel, et Dieu reviendra vers lui, et Dieu lui dira, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Et il lui parlait d'une maison, sa famille, etc., une maison dans laquelle s'exprimerait et se manifesterait le Sauveur du monde. Une maison solide. Il faut que notre volonté s'exprime. Bien sûr, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, ni pour recevoir, mais l'exercice de la volonté donne à Dieu un espace d'action pour exprimer sa volonté dans notre vie. Il intervient toujours à l'intérieur de notre volonté et dans les limites que nous lui fixons. Dieu agit ainsi. Bien sûr, on ne peut pas dire que Dieu nous donne tout ce que l'on veut. Et heureusement, et avec le recul, je bénis le Seigneur de ce qu'il ne m'a pas donné tout ce que je voulais. Parce que j'ai pris conscience, par le fait de la maturité qui est venue, que heureusement que Dieu ne m'a pas donné tout ce que j'y avais demandé, parce que ça m'aurait mis en danger. Mais il est quand même celui qui fait au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au travers de notre volonté et qui a dépassé même ce que l'on pensait, ce que l'on désirait. C'est ainsi que Dieu éduque notre volonté, la volonté de chacun de ses enfants. Alors il nous faut tendre vers l'idéal. La position idéale consiste à être toujours dans la volonté de Dieu. Mais ça, on n'y arrive pas toujours. Il n'y en a qu'un seul qui est parvenu à cela, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Prenons exemple. Voilà. Nous nous tâtonnons à l'exemple de David. Il est arrivé à faire la volonté de Dieu, mais un peu à tâtons, comme nous. Nous allons... Il nous est dit dans Actes 13, je prie ce verset-là, verset 22, « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Est-ce que Dieu peut en dire autant à notre sujet, chacun pour notre part? Est-ce que nous avons un cœur selon Dieu pour accomplir toutes les volontés de Dieu? Vous allez me dire, mais David... Non, David, il n'a pas toujours fait la volonté de Dieu. Il a fait un certain nombre de bêtises. Il a fait un certain nombre d'erreurs. Mais c'est un homme qui a su, quand Dieu lui a parlé, il savait revenir. Il savait s'humilier devant Dieu et Dieu le restaurait. Il est un homme qui avait un cœur pour Dieu. Et dans ses limites humaines, oui, il a fait des erreurs, mais il a gardé un cœur pour Dieu. Et ça, je crois que c'est intéressant. Oui, il a su garder ce désir de faire la volonté de Dieu. C'est dans la mesure où il y a à la base ce désir et cette intention de faire la volonté de Dieu que chacun d'entre nous pourra connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est là la voie qui y conduit, comme dans l'amour, je dirais comme l'amour, nous amène à aller dans ce qui est bon. Il nous faut donc être imprégnés par la communion avec Dieu, de par la communion avec Dieu, imprégnés de sa parole, de sa pensée. Jésus dira dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Elle est forte cette parole. Et dans la mesure où chacun d'entre nous se nourrit de la parole de Dieu, notre volonté va se trouver être imprégnée de la connaissance de ce qui est agréable à Dieu. Ce qu'il demande, alors, et ce que nous pouvons demander dans nos prières, est inspiré de la connaissance que nous avons du Seigneur, animé de l'amour que nous avons pour lui. Et ce que nous pouvons demander est aussi le fruit. Et quand il y a exaucement, il n'y a pas coïncidence. Il y a simplement une suite logique de ce que notre volonté, imprégnée des choses d'en haut, de la volonté de notre Dieu, se trouve prendre leur dimension et trouver leur réalité. Et nous pouvons dire, oui, c'est ce que Dieu veut. Sachant, comme il est dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Vous n'êtes pas seul, dit notre traduction. Dieu lui-même œuvre en vous, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. C'est donc la conjugaison de la volonté de Dieu et de la nôtre qui nous donne d'être dans la bonne attitude, la bonne direction et dans le dessein de Dieu. Et vous connaissez tous ce psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. » Vous connaissez la suite ?« Et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous laisser imprégner des choses d'en haut, de la parole de Dieu, dans la prière. Il nous faut donc tendre vers ce désir de vivre selon la volonté de Dieu. On connaît tous l'exemple de Saul de Tarse, que Dieu un jour a stoppé net là sur ce chemin, s'est retrouvé au sol, ébloui d'une lumière où Jésus se révélait à lui. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et sur cette base, le Seigneur lui dira, « Eh bien, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le Seigneur, si nous sommes prêts à écouter, est prêt à nous parler. Jacques, dans sa lettre, devra écrire aux croyants, il va être même sévère, parce que justement, ça partait un peu dans tous les sens, et ce n'était pas très digne du Seigneur. Et il leur rappellera ceci au sujet de la volonté. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça doit, jour après jour, être là dans nos cœurs. Non pas une formule magique, presque superstitieuse, non, mais de dire, si Dieu le veut, mais pour cela, j'ai pris le temps nécessaire dans la communion avec lui, pour savoir ce qu'il veut. Paul lui-même exprimera cela. Il dira, alors qu'il essaie des croyants, on retrouve ça dans Actes 18, « Il faut que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Dernier exemple que je donne, on trouve ça dans le livre de la Genèse, où Abraham envoyait son serviteur pour trouver une épouse pour son fils Isaac. Et les choses se sont déroulées là aussi. Cet homme s'est placé devant Dieu et a demandé à Dieu que Dieu fasse réussir son voyage. Et c'est ce qui va se faire. Et puis à un moment donné, le serviteur d'Abraham dit, « Eh bien, je vais repartir. » Et la famille dit, pas si vite. Et ils vont avoir cette parole, mais demandons à la jeune fille. Ils appelèrent donc Rebecca, chapitre 24, verset 58, et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il nous est dit, à partir de là, ils ne se sont plus opposés. Voyant en quelque sorte la volonté, la détermination de Rebecca à suivre le serviteur pour aller vers Isaac, eh bien les membres de la famille ont cessé de faire pression, on pourrait dire ça, pour la retenir. Et cette prise de position, eh bien, nous laisse un enseignement. Exprimez votre volonté. Alors, ça pourra être pour de bonnes choses, ou ça pourra peut-être donner de prendre conscience que, ah, ce que vous voulez, oula, danger. Et de peut-être entendre vos frères, vos sœurs vous dire, là, je serai toi, je ferai très attention. Et trop souvent, nous gardons les choses au fond de nous. Et nous faisons comme bon il nous semble. Et on se met en difficulté parfois. Ou alors parfois, eh bien oui, c'était vraiment ça le dessein de Dieu, sa volonté. Mais apprenons à exprimer notre volonté. Ne restons pas des personnes qui restent entre deux, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais exprimons notre volonté. Dieu prend plaisir à cela. Et ça permet aussi, dans notre entourage, de voir eh bien, où nous en sommes, qui nous sommes. Et on n'est pas là pour écraser les autres, ou pour régner, ou pour gagner un pouvoir. Non, on est simplement là pour, eh bien, aussi, en exprimant notre volonté, voir que certaines choses, ah, il va nous falloir rectifier. Ou alors, au contraire, c'est là quelque chose d'inspiré, de bon, et c'est bien cela que Dieu veut. Et ça va nous donner de l'assurance, et dans notre entourage, ça va donner aussi de l'assurance. Et on va recevoir le témoignage, eh bien, aussi de nos frères et sœurs. C'est tellement important. C'est un principe que d'exprimer notre volonté. Quand Dieu nous voit décider dans nos résolutions volontaires, il nous ouvre des routes. Il nous ouvre des portes, il change des circonstances, des situations qui parfois nous semblent comme enfermées, bloquées. Mais parce que nous avons exprimé notre volonté avec foi, eh bien Dieu ouvre de nouvelles portes. Et c'est un principe spirituel que d'exprimer sa volonté. Parce que quand l'ennemi même de notre âme voit cette détermination, et que c'est exprimé dans la foi, et que notre foi est en Jésus, il se retrouve vaincu. Et il est obligé de lâcher prise. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais parce que nous exprimons notre volonté de voir s'établir le règne de Dieu ou l'intervention de Dieu dans tel et tel domaine de notre santé, de notre foyer, de notre famille, pour nos enfants, dans le domaine du travail. Parce que nous allons clairement énoncer les choses, nous prenons position, et je peux vous dire que dans le monde spirituel, ça bouge, parce que nous le faisons dans la foi. Ainsi, notre volonté, elle est travaillée par la parole de Dieu et par aussi la volonté du Seigneur. Et il faut que les deux se retrouvent et que les deux s'expriment. C'est ce qui fait autorité et c'est ce qui fait toute la puissance de Dieu dans notre vie et notre quotidien. Amen. Je m'arrête là. J'étais un peu long peut-être. Mais on va garder ces choses dans notre cœur et que vous puissiez le mettre en pratique jour après jour afin que vous puissiez marcher avec assurance en disant oui, c'est ici la volonté du Seigneur. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole qui nous encourage à la foi, qui nous encourage à assumer nos responsabilités et exprimer aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Tu veux des hommes et des femmes qui soient volontaires et décidés, résolus pour toi. Non pas par réaction, non pas par désir simplement, mais Seigneur, par un simple amour de ta personne et de ta volonté. Je veux te prier pour mes frères et sœurs, pour qu'ils marchent dans ta volonté et qu'ils expriment la leur, Seigneur. Et tu vas agir et déployer dans leur vie de riches bénédictions, je le crois. Et je veux croire qu'il y a encore des choses qui vont évoluer, qui vont se développer, parce que tes enfants vont exprimer leur volonté, leur désir, dans leur foyer, leur famille, dans l'église. Seigneur, bénis, Seigneur. Et nous voulons dire tous ensemble pour ce département que nous voulons le salut de notre Dieu. Et nous voulons des âmes sauvées. Nous voulons des vies transformées. Nous voulons voir des familles réconciliées. Nous voulons voir des corps être relevés. C'est là, Seigneur, notre prière et notre foi. Et nous voulons travailler dans ce sens. Seigneur, c'est là notre volonté exprimée dans la foi et au nom de Jésus. Amen.